plutôt que de politique, je voudrais vous parler d'un échange de regards. Ça peut paraître bizarre, mais c'est peut-être ce qui m'effraie le plus aujourd'hui, qu'on arrête de se regarder, pour plein de raisons, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on est trop loin, parce que c'est offensant, alors on se regarde par le prisme d'un écran, quand on se regarde, parce qu'il arrive qu'on fasse autre chose en même temps. Je me souviens qu'on m'avait dit, ne les regarde pas dans les yeux, parce que dans la vie, si tu fixes quelqu'un, il va trouver ça étrange ou agressif. Les gorilles, c'est pareil. Après des heures de marche dans la montagne au Rwanda, au détour d'un chemin qui n'en était pas un, ils étaient là, en groupe. Alors au début, on les voyait pas, on les entendait bouger. Il a fallu que l'un d'eux se lève et nous fasse signe de le suivre jusqu'à ce qu'on se retrouve avec eux sans trop savoir quoi faire à part s'asseoir et baisser les yeux. On les regardait de biais pendant qu'ils mâchouillaient des plantes. On faisait comme si on n'était pas là. Et moi, j'avais des larmes qui coulaient rien que de les savoir à côté de moi. Et puis ça s'est produit. J'ai senti qu'ils me regardaient et tout doucement, j'ai levé la tête et on s'est fixé droit dans les yeux, 3 secondes, peut-être 2. Ça paraît fou, tout ce qui peut surgir d'un échange de regards, de cet échange de regards, à commencer par notre humanité, et puis peut-être aussi tout ce qu'on a oublié, le lien, le vivant, le temps, tout ce qu'on oublie tout le temps.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui sait ce que c'est que le regard d'un gorille. Lui qui a fait de ce grand singe l'un des emblèmes de son travail, il est sculpteur et ses œuvres monumentales ont fait de lui l'un des artistes français les plus populaires de ces 10 dernières années et les plus cotés dans le monde. Début décembre, il semait le long de l'avenue Georges V à Paris ses animaux géants et monochromes pour une exposition en plein air qu'on pourra voir jusqu'au 8 février. Bonjour Richard Orlinski.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les yeux d'un gorille? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Ah oui, c'est étonnant. Ben, le gorille, c'est d'abord un animal assez particulier, parce que quand même, il est très très proche de nous. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai choisi. Et notamment le dos argenté, qui est
le mâle dominant.
Le mâle dominant, et puis celui qui a inspiré King Kong aussi. C'est oui. Vraiment le gorille, qui fait pas la taille de King Kong en réalité, mais qui est un animal surpuissant déjà. Il mesure à peu près 1m60 et il a une capacité de porter 800 kilos, ce qui est juste un truc de fou. Il est plus...
Alors c'est intéressant, ça veut dire qu'il interroge chez vous l'animalité et l'humanité, mais aussi la pop culture en fait.
Absolument.
Qu'est-ce que vous voyez dans la figure de King Kong, vous? Qu'est-ce que ça vous évoque, Richard Orlinski?
Ah bien, King Kong, pour moi déjà, ça fait partie de mon enfance. Il y a eu tellement de remakes de faits, puis c'est un monstre au grand cœur. C'est l'homme parfait, c'est l'homme que tout le monde voudrait être, peut-être avec moins de poils, peut-être. mais je veux dire, de défendre comme ça la jeune fille, de se battre contre la pollution. Enfin, il a des messages qui sont juste super bénéfiques. C'est que du positif en réalité.
Oui, là, je pense tout de suite à l'une de vos sculptures qui se trouve d'ailleurs actuellement sur l'avenue Georges V et où on voit votre King Kong soulever un baril de pétrole comme pour s'en débarrasser. Qu'est-ce que vous nous dites là?
Oui, c'est un petit peu une lutte un petit peu contre effectivement la pollution, contre la civilisation, puisque le gorille vient de la forêt. Donc, quand on voit tous ces humains qui arrivent et qui saccagent un peu tout, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein, et lui, il se bat un petit peu contre ça, c'est que du positif.
Mais c'est intéressant parce que vous l'avez placé, cette sculpture qui dénonce d'une certaine façon la destruction de l'environnement, la pollution et la société de consommation, sur une avenue jalonnée de boutiques de luxe. Ça aussi, ça a un sens politique pour vous?
Oui, alors après, c'est un peu un hasard, on a choisi l'exposition, on a fait Champs-Élysées, Georges V. C'est vrai que c'est très fort parce que c'est quand même, en France, quand même une des avenues les plus connues, puis même dans le monde.
Oui.
Et du coup, effectivement, c'est un petit clin d'œil. Ça n'a pas été fait exprès non plus.
Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'avec les années, c'est bien grâce à votre bestiaire qu'on vous a découvert, Richard Orlinski, au fond. Quand est-ce que vous avez commencé à sculpter des animaux?
Alors, j'ai commencé dès mon plus jeune âge, à l'âge de 4 ans. Je faisais déjà des animaux en terre cuite. Terre cuite. Non, il fallait d'abord le faire, puis après on la mettait au four.
Ouais. Pourquoi la terre cuite?
C'est une matière, c'est un peu comme de la pâte à modeler améliorée. La pâte à modeler, ça bouge, ça reste de la plastiline, ça bouge, alors que là, on fige. Et j'étais d'ailleurs un grand faillot parce que je faisais des éléphants et je ferais ça à mes maîtresses, à mes éducateurs, etc. pour me faire bien voir. Dès le départ, j'étais un peu considéré comme un surdoué à la maternelle. Ça a bien changé avec le temps, mais j'ai passé de l'autre côté. Mais du coup, c'est vrai que j'avais vraiment une passion pour ces animaux. Mais on a tous eu cette passion, je pense que vous aussi, quand on était jeune, on a toujours aimé les zoos, enfin, de l'humanité. Depuis la nuit des temps, on a toujours été très très proche de l'animal.
Mais dites-moi, le contact concret avec cette pâte humide entre vos mains, c'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui?
Ça me manque pas parce que j'en ai fait encore avec mes enfants et donc je fais beaucoup d'ateliers. Je suis très impliqué dans pas mal d'actions caritatives et je vais dans les hôpitaux et je fais des ateliers régulièrement. Je prends le temps, ce qui est au début très difficile. Je me dis oh là, j'ai pas le temps si je vais parce que j'ai passé une journée à l'hôpital. Mais il y a tellement de choses importantes qui se passent quand on passe une journée avec des enfants
et qu'on fait de l'art.
Et qu'on fait de l'art, mais des enfants qui sont qui ont des affections en plus, parce que bon, je vais pas avoir n'importe quels enfants, genre des enfants malades. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme affection, mais il y a un vrai échange. Et on fait des ateliers et on donne et on reçoit énormément.
Et parce qu'aujourd'hui, ils sont faits en quoi, vos animaux, Richard Aronsky?
Alors, j'adore toutes les matières. Donc, je travaille en bronze, aluminium, la résine, vraiment, il y a de l'or, ça peut être n'importe quoi. Il y a de l'albâtre. J'adore aussi découvrir plein de matériaux nouveaux.
Le crocodile rouge, par exemple, qui vous a fait connaître au milieu des années 2000, quelle était sa matière?
Il était en résine, c'était une forme de résine. Et c'est marrant que vous saviez ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'œuvre, ma première œuvre, c'était le gorille, quoi, le Kong.
Ah ben non, c'est le crocodile.
Oui, non, mais c'est clair. Mais l'autre est devenu tellement iconique que, je veux dire, les gens pensent que c'est le Kong que j'ai fait.
Mais c'est intéressant, ce crocodile, parce qu'en fait, vous en avez retravaillé les proportions, c'est ça?
Complètement. Alors moi, je suis pas Dieu, mais j'essaie de changer la nature pour lui donner un aspect qui me paraît plus équilibré. Parce que si vous regardez sur Google, par exemple, un crocodile, c'est une toute petite tête avec un énorme corps. Et en réalité, moi j'ai fait 33, la gueule est égale au corps et à la queue. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très différent, avec des couleurs différentes. Et donc, mais par contre, l'inconscient collectif, les enfants voient un crocodile, tout le monde voit un crocodile finalement, mais il est tellement différent d'un réel crocodile.
Et qu'est-ce qui vous fascinait chez cet animal, le crocodile?
Alors le crocodile, pour moi, c'est un animal très important parce que c'est un des vestiges il a survécu à tous les cataclysmes. Il a une origine de plus de 300 millions d'années. Oui. Il était là avant les dinosaures. De par son cœur, de par son métabolisme, il peut rester sans presque en état de mort clinique pendant plus de 6 mois, ne pas manger, ne pas respirer. Enfin, c'est un truc qui est fou. D'ailleurs, on étudie encore son métabolisme. C'est compliqué, quoi.
J'entends le mot survécu. À quoi est-ce que vous aimeriez survivre, vous?
Je sais pas. J'essaie en tout cas, effectivement, de marquer un petit peu l'histoire. Mais je suis plus dans la transmission, dans le partage.
Mais vous savez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé pour préparer cette émission. J'ai lu votre autobiographie qui est apparue il y a 5 ans et très tôt, vous racontez que vous avez conscience de votre finitude, de votre mortalité.
Oui.
Cette prise de conscience, c'est venu comment ?
Je sais pas, très tôt, je veux dire, c'est des échanges que j'avais avec ma mère. J'avais des crises d'ailleurs très très violentes, mais tout petit. Ma mère me calmait, elle me dit, bon, toi t'auras besoin que tu marques, de créer quelque chose.
Et c'est pour ça que vous faites de l'art, en fait.
Je sais pas, c'est assez inconscient tout ça. Généralement, on se rend compte après des choses.
En tout cas, cette création, ça vous permet de composer avec l'angoisse de la mort, encore aujourd'hui?
Oui, ben en réalité, c'est pas que cette création, c'est tout ce que je fais autour, puisque je travaille à 360, je fais de la musique, je fais du spectacle, j'étais sur scène hier soir à la Comédie de Paris, enfin je fais 1000 projets à la minute, à la seconde, et je pense que quelque part, si on fait une analyse, je suis pas psychologue, mais si on fait une analyse, c'est peut-être une fuite aussi en avant pour, je me dis qu'en un an, moi je dois faire ce que les autres font en 10 ans, en 20 ans, et que c'est effectivement quelque chose qui peut-être m'occupe tellement que ça m'empêche de penser à la finalité.
Vous savez qu'il y en a une qui est psychologue dans cette émission, Richard.
Ah bon?
Bah c'est la culture.
Ah bah oui.
Et son actualité qui psychote. Précisément, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 25 janvier?
C'est recommencer l'histoire, c'est reconstruire la mémoire, et c'est ça ce que le tableau représente.
Un Chagall, un Klimt ou un Utrillo, l'Assemblée nationale va examiner aujourd'hui le projet de loi portant sur la restitution de 15 œuvres d'art aux ayants droit de familles juives spoliées par les nazis. Les chefs-d'œuvre, parmi lesquels Les Rosiers sous les arbres de Gustav Klimt, appartiennent aux collections publiques nationales accueillies au Louvre, à Orsay ou à Pompidou, et c'est pourquoi leur restitution nécessite le vote d'une loi par l'Assemblée. Banco, double Banco, Sony a annoncé hier avoir acquis l'intégralité des droits du catalogue de musique enregistré par l'icône folk et prix Nobel de littérature Bob Dylan. Un accord dont le montant n'a pas été révélé mais qui porte sur 60 ans de création, depuis le premier album du Zim en 1962 jusqu'à ses futures nouvelles sorties. En 2020, Dylan avait déjà vendu ses droits d'auteur, cette fois distincts des droits d'enregistrement, à Universal Music.
Le roman saisit la famille à un moment de crise.
Le maître d'histoire, après sa trilogie de l'entre-deux-guerres, dont le premier tome Au revoir là-haut avait été sacré du Goncourt 2013, Pierre Lemaître inaugure un nouveau cycle romanesque, centré cette fois sur les Trente Glorieuses. Il fait paraître ce 25 janvier Le Grand Monde, une fiction chorale aux airs de fresques familiales et historiques déployées entre Beyrouth, Saïgon et Paris, sur fond de capitalisme, de colonisation et d'ambition, c'est chez Calman Levy et on dit oui. Et enfin, 3, 2, 1, streamer. Un nouvel accord de diffusion des films après leur sortie en salle a été entériné hier entre les grandes plateformes, les chaînes de télé et les organisations du cinéma. Concrètement, Netflix pourra proposer de voir les œuvres 15 mois après leur sortie, contre 36 jusqu'à présent. Disney et Amazon pourront le faire au bout de 17 mois. De son côté, Canal+, qui conserve son privilège, a réussi à faire passer sa fenêtre de diffusion de 8 à 6 mois, soit deux fois moins qu'en 2018. L'artiste contemporain Richard Orlinski, invité de Boomerang ce matin pour parler de forme, de matière, mais aussi d'une certaine conception de l'art et de son accessibilité. Démocratiser l'art contemporain, ça passe par quoi ?
Bah, ça passe déjà pour le faire connaître. J'amène, moi, on parlait tout à l'heure d'exposition monumentale, l'art où on n'y attend pas, gratuitement. On n'a pas besoin de payer pour rentrer dans un musée.
C'est-à-dire qu'on sort du musée, en fait, ouais.
Bah, j'amène le musée aux spectateurs. Je le fais déjà depuis très longtemps. Je l'ai fait dans les stations de ski, dans les stations balnéaires. Mais je le fais aussi dans des endroits très inattendus. Par exemple, j'ai redonné un petit peu un coup de projecteur dans le bassin minier, puisque j'ai exposé à Lens. On a fait un parcours, on a fait revivre une mine. Et il fallait voir la joie et la fascination des personnes qui étaient là-bas. Bon, déjà, le Nord, c'est une région qui est très chaude et qui est très, et j'ai été accueilli là-bas. Vraiment, c'était incroyable. Je pensais rester quelques heures. Je suis resté plus de deux jours parce que il y avait une telle énergie. Et je vois quand les gens sont contents, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment incroyable. Et dans les centres commerciaux aussi, par exemple, on ne peut pas mettre n'importe quoi, des décors, mais dans les centres commerciaux où les gens n'ont peut-être pas de quoi s'acheter grand chose, et bien de pouvoir amener cet art dans ces endroits très populaires, pour moi, c'est vraiment très important.
Parce que le musée, quel lieu est-ce que c'est pour vous ? Je vous pose la question, est-ce que vos sculptures, c'est assez rare qu'elles s'exposent dans de grandes institutions, justement, et je vous voyais hocher la tête tout à l'heure quand Yannick Jadot parlait des institutions culturelles et de la culture un peu plus locale, un peu plus.
Oui, alors en fait, il y a un espèce de boycott en ce qui me concerne. Etc. Donc moi j'ai pas suivi, donc j'ai pas la carte comme dirait l'autre, j'ai pas suivi le cursus qu'il aurait fallu, les cooptations. Mais cela étant, c'est très parisien parce que je suis dans des musées à l'international, oui. Je suis dans des musées en province aussi, donc c'est vraiment parisien. En France, je suis accueilli, j'ai fait beaucoup de villes, j'ai la chance d'avoir fait des expositions, d'avoir fait des visites, d'avoir organisé des Noëls avec la musique, d'avoir fait des shows. Donc c'est vraiment très très parisien ce dont vous parlez, qui existe évidemment, mais aujourd'hui c'est de moins en moins. Il y a beaucoup de gens qui se rallient aussi à ma cause, donc voilà. Ça me dérange pas, bon, c'est pas.
Ça vous heurte quand même, ça a pu vous heurter.
Oui, au début, j'avais honte de ce que j'étais. Dès le départ, enfin, tout au départ, on me disait ce que je faisais, j'étais, oui, je suis dans l'art, mais j'étais pas connu comme maintenant. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je dis pas que c'est un fonds de commerce ou un leitmotiv, mais quelque part, ça me fait plus rigoler qu'autre chose, parce que quelque part, quand je fais quelque chose, eh bien, il y a peut-être 90% des gens qui trouvent ça bien, et ceux qui sont un peu réfractaires, ils savent même pas pourquoi ils le sont. Je les connais pas en réalité, et puis il y a parfois des échanges, et c'est ridicule, donc bon, voilà.
Et moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est précisément l'échange, hein, c'est le fait que vous sortiez, je pense à votre émission qui s'appelle Sur les murs, où vous allez à la rencontre de street artistes peu connus du grand public, la rue, Richard Orlinski. Dans quelle mesure est-ce que ça nourrit votre art aussi ?
Alors, avant de nourrir mon art, la première mission, c'était effectivement de partager, de faire connaître et donner un coup de projecteur après cette pandémie à des artistes qui étaient bloqués, puisqu'ils ne pouvaient pas, il y avait des lockdowns, ils ne pouvaient pas sortir dans les rues. Donc du coup, moi j'avais trouvé ça vachement intéressant de partager. Et ben comment ça nourrit ? Parce que d'abord, je m'inspire, et c'est vrai ce que vous dites. Au début, je pensais pas que ça allait faire cet effet, mais je m'inspire de toutes ces. Pour moi, plus on a de cerveau, plus on crée, plus on est créatif. Et moi, je crée en famille, on est une équipe. Donc du coup, de participer, parce que dans cette émission, je sais pas si vous l'avez vu, mais je participe et j'apprends même des choses.
Oui, bien sûr.
Il m'explique des choses que je savais pas. Je suis un super graffeur.
Oui, avec toujours une posture d'humilité, c'est assez agréable à regarder.
Et j'adore, parce que vraiment, les gens sont super contents. J'ai des messages, et il y a même des artistes à qui j'ai gardé des contacts et que j'aide aujourd'hui à se développer.
Donc vous savez, moi, ce que je trouve beau, c'est que ça confère aussi, ça dit quelque chose du pouvoir que vous conférez à une œuvre d'art, de ce que ça produit, une œuvre d'art, sur les gens qui la regardent. Qu'est-ce que ça peut pour vous, une œuvre d'art? Qu'est-ce que ça permet?
Ah bah d'abord, une œuvre d'art. En tout cas, une œuvre d'art, ça dépend. Moi, ce que j'ai toujours cherché, c'est d'avoir une émotion, une lisibilité immédiate. Et ça marche, parce que les enfants, dès l'âge de 2 ans, ils ont une sensibilité. Moi, j'ai des enfants qui nourrissent, on parlait du crocodile, qui s'en occupent. Quand ils sont pas là, il y a une tristesse. Il y a de l'émotion, il se passe quelque chose. J'ai pas voulu avoir une grande intellectualisation de l'art, mais d'avoir une émotion.
C'est une
on
réponse,
aime, on aime pas. On peut détester, on peut dire c'est moche, c'est pas grave. Mais même quand on dit c'est moche, ben, il y a une réaction quand même.
Et quand est-ce que vous avez été submergé, vous, par cette émotion? La première fois, quand vous étiez petit, vous vous souvenez? devant une œuvre d'art.
Non, je me souviens pas. Ma mère me traînait dans les musées, mais j'aimais pas forcément ça, d'aller dans ces espèces de lieux un peu austères. On était obligé de faire, de regarder. J'aime pas trop qu'on impose des choses. J'aime la liberté. Les gens, je leur dis, vous pouvez voir, et même dans l'interprétation, sur la même sculpture, les gens vont avoir 10 interprétations différentes. Je leur dis, vous avez raison, c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai vraiment envie de rester très proche du public. Moi, c'est plus les animaux du coup, moi, qui m'ont plus que les sculptures, qui m'ont inspiré en réalité.
Comment ça s'est manifesté, l'hostilité envers vous, Richard Orlinski, concrètement? Comment vous l'avez ressenti?
Une très grande violence, parce que vous savez, dans tous les métiers traditionnels, c'est l'argent roi, c'est le business, c'est l'argent, et finalement les gens se battent pour gagner tel ou tel, c'est les concours, etc. L'art, c'est différent, il y a de l'ego en plus, il y a de l'argent, mais il y a l'ego. Et l'ego, on ne connaît plus l'histoire de tous les temps. L'ego, c'est meurtrier. Des gens, je pense qu'il y a des gens qui voudraient même me tuer physiquement, tellement il y a une haine profonde par rapport à ce que je fais. Donc quelque part, c'est devenu drôle.
Et comment vous y avez répondu à cette haine là?
Il y a pas beaucoup de courage non plus, parce que j'ai jamais été vraiment attaqué de manière frontale. Ça m'est déjà arrivé, mais bon, après, moi, chacun pense ce qu'il veut.
Vous dites parfois que par conséquent, vous avez voulu casser les codes.
Oui, j'ai cassé les codes. En fait, j'ai cassé les codes parce que j'ai pas eu le choix. Et c'est ce que je dis, parce que moi, quand je suis arrivé avec ma naïveté, j'ai dit, je me lance dans l'art, c'est quelque chose dont j'ai rêvé depuis que je suis tout petit. J'étais comme essayer de me lancer, effectivement, prendre des cursus, aller voir des galeries, etc. Et j'ai vu qu'en réalité, j'étais pas attendu, donc j'ai dû faire comme Harry Potter, prendre la voie 9 3/4, le chemin de traverse, et faire des petits. C'est le premier d'ailleurs qui m'a un petit peu mis dans ce truc, c'est Laurent Ruquier qui m'a dit, écoute Richard, ok c'est super, j'avais fait un super livre avec des pop-up qui se déplient à 2 mètres, un truc que personne n'a jamais fait. Mon éditeur m'a lâché au bout d'un moment parce que les budgets devenaient complètement fous. Et du coup il m'a dit, mais bon, on n'a pas de case en fait pour un sculpteur. Donc tu seras écrivain, tu serais aujourd'hui artiste, même candidat de télé-réalité, j'en sais rien, n'importe quoi. Il y a pas de case. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'il y a pas de case. J'ai dit, il n'y a pas de case, on va en créer une. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai un petit peu abordé l'art d'une manière différente, parce que pour moi, l'art est universel. Donc je me suis lancé dans la musique, mais en tout cas mes amours d'origine, puisque j'ai fait des musiciens, j'ai fait des castings, j'ai fait du théâtre. Donc j'ai un petit peu... Et je me suis dit, on va m'accueillir comme ça. Et du coup, je suis revenu à l'art grâce à ça, en tout cas pour la médiatisation.
Vous savez qu'il y a une case pour vous, c'est le 9h30 de France Inter ce matin.
Merci.
On va reparler ensemble de tout cela juste après une merveille du mardi, Thelma Houston et George Benson, parce que je sais que vous aimez danser.
Oui, absolument.
On oublie souvent à quel point ce titre, Don't Leave Me This Way, est beau et bouleversant. Vous êtes sur France Inter avec Richard Orlinski. Vous écoutez Boomerang, on est mardi. Stay alive without your love. Oh.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Depuis le début de l'émission, j'y pense, on est quelque part entre l'acteur danois, le golden boy et le félin. Il a le regard douanier Rousseau, le cheveu canaille, la dent joueuse, l'épaule généreuse, tout en sweat à capuche noire. Ce matin, l'artiste contemporain Richard Orlinski, invité de Boomerang. On parlait tout à l'heure de la place de l'art dans l'espace public. Chez vous, dans votre famille, quelle était la place de l'art? Quelle importance est-ce qu'on donnait à l'art?
Alors c'est très important, ma mère était férue d'art et donc elle a beaucoup voulu en tout cas nous inculquer, à moi et ma sœur, on était deux, toujours nous emmener dans des expositions, etc. Ma sœur était plutôt, elle aimait beaucoup, moi personnellement ça me gonflait quoi, parce que d'aller voir tous ces classiques, en fait j'avais petit, je voulais, quand je passais dans les musées, je passais comme ça, etc. Mais peut-être que j'en ai retenu quelque chose, mais c'était pour moi quelque chose de boring, mais voilà, c'est marrant, c'était ça, c'était mon idée petit quoi, après ça a changé.
Parce que, de quoi vous rêviez vous quand vous étiez petit, à part être vétérinaire?
Ah oui, exact, j'étais vétérinaire, je sais pas de quoi je rêvais de... très tôt j'avais j'étais très sérieux en fait, mes camarades à la maternelle se faisaient des guerres et des bagarres avec des morceaux de bois ou je sais pas trop quoi, et moi j'étais avec une fille et je disais bon, on va se marier quand on sera grand, on aura des enfants, etc. J'étais un peu bizarre, mais voilà.
Mais vous rêviez de réussite, Richard Orlinski?
Je sais pas à quel moment j'ai rêvé de réussite. Je pense que j'ai vécu dans un foyer compliqué avec un divorce, des parents violents, enfin mon père qui était assez violent. Donc quelque part oui, j'avais envie de m'en sortir. J'étais confronté au manque très rapidement. J'étais dans des écoles où les gens étaient très riches et moi j'avais rien. Donc quelque part ça m'a effectivement donné, c'était une bonne école dans la vie. J'avais cette rage de réussir pour m'en sortir et ne pas justement moi c'était mes potes qui me payaient le McDo et le cinéma quoi. Je veux dire, j'avais pas de quoi me payer le McDo et le cinéma le samedi après-midi. Donc c'est quelque chose que j'avais effectivement cette haine de réussir et de pouvoir, mais très tôt, cette histoire de fonder une famille, de transmettre ça, c'était vraiment très très ancré.
Mais aujourd'hui, maintenant que vous avez réussi, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la réussite? Qu'est-ce que vous transmettez justement à vos enfants, par exemple?
Déjà transmettre à mes enfants, puisqu'on est une équipe incroyable, les enfants sont tous dans l'art aussi, on fait tout en équipe, on fait tout ensemble, et on a toujours vécu comme ça. Les gens, mes potes de l'époque se foutaient de ma gueule parce que j'emmenais mes enfants partout, ça les gonflait, mais moi en fait je me retrouve bien qu'avec ma famille. Je me rappelle encore du dernier qui dormait jusqu'à 4 heures du matin dans les canapés chez Cathy et David Guetta, enfin qu'ils ont connu tout ce monde un peu fou, je l'ai amené, etc. Et du coup ça a fait des enfants qui sont aujourd'hui plutôt pas mal, et puis le partage avec le plus grand nombre. Moi j'ai un public aujourd'hui que je vois encore hier, c'est sur scène donc à la Comédie de Paris, et je vois des gens venir me demander de dédicacer des petites sculptures qu'ils ont achetées grâce à leur accessible, soit chez Disney ou peu importe, n'importe quelle de mes collaborations, et pour moi c'est génial. Il y a vraiment un partage, et en fait je suis très fier de ce partage avec le plus grand nombre, plus que de vendre, comme on souvent me qualifie, du sculpteur des stars. Oui. Mais oui, ça fait partie du jeu aussi. Mais voilà.
À quel moment vous avez compris en fait que l'art, la sculpture en l'occurrence, ce serait un moyen pour vous de parvenir, de réussir?
Je sais pas, j'ai jamais compris en fait. Je crois que c'est quelque chose.
À un moment donné, vous avez passé le pas.
J'ai passé le pas parce que ça fonctionnait, mais enfin pour être tout à fait honnête, dès la première, on parlait du crocodile tout à l'heure, ouais. Dès la première semaine où on a mis cette sculpture en vente et qu'une galerie m'a permis de le faire, on a vendu une vingtaine de pièces parce que j'avais cette idée, si vous avez lu effectivement mon livre, j'avais cette idée de faire du dumping et de vendre les œuvres moins chères que leur prix, donc déjà était d'une taille assez grande, donc du coup c'était un moyen de communiquer qui était assez malin. J'ai fait des études de commerce avant aussi.
Et vous étiez dans l'immobilier.
Dans l'immobilier, donc j'avais un peu un background et tout, donc j'ai eu des idées un peu comme ça, un peu saugrenues, et puis ça m'a profité.
Et à ce moment-là, quelle était votre relation avec l'art? Vous étiez collectionneur?
J'étais collectionneur, absolument. J'étais collectionneur. Je collectionnais. J'étais beaucoup plus attiré encore par la sculpture que par la peinture. C'était pas une des meilleures choses que j'ai faites, parce qu'aujourd'hui la peinture a beaucoup plus monté que la sculpture. Allez, en tout cas les sculptures des.
Oui, enfin, on va pas se mentir. Vous avez beaucoup monté aussi.
Moi, oui. Je pars dans mes investissements. Ouais. Mais oui, bien sûr. J'étais collectionneur. Ça me passionnait, bien sûr.
Qu'est-ce que vous recherchez en fait, vous, chez un artiste?
Chez un artiste, l'émotion, toujours l'émotion. Je cherche pas, je suis vraiment dans l'émotion. J'achète pas un artiste parce que il est coté ou pas coté, mais vraiment j'aime dans des jeunes artistes, pas forcément jeunes en âge, mais jeunes dans leur manière de se faire connaître. Et j'adore cette émission que je fais parce que je découvre des trucs incroyables. Et c'est tout ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils représentent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie. Aussi leur humilité à vouloir me poser des questions, me dire comment faire pour réussir. Moi, t'as des gars comme mon âge qui me disent je sais pas comment on fait. Ils sont tellement humbles et ils pourraient. Ils sont déjà pas mal, donc de transmettre et de pouvoir les aider, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux qui achètent vos œuvres d'art, sur l'art, sur l'émotion que ça procure, que ce soit d'ailleurs, effectivement, vous le disiez, Sharon Stone, Nabila, ou Kylian Mbappé, ou alors des gens... des gens plus inconnus.
Ouais, parce que
qu'est-ce qu'on vous dit?
Bah, il y a une espèce de passion. En fait, c'est très drôle parce que d'abord, je suis content parce que j'ai initié à l'art beaucoup de gens qui n'ont jamais acheté. J'ai des primo-accédants et je pense que dans ce que j'ai fait dans ma carrière, j'ai presque eu 30 ou 40% de primo-accédants à l'art. Donc, je trouve ça génial parce que j'ai déjà rentré là dans des maisons. Et puis, c'est l'émotion. Et puis, les gens, c'est très marrant. Ils sont boulimiques. Une fois qu'ils m'ont acheté une sculpture, ils en ont acheté deux ou trois ou quatre. C'est très rare. Il y a des gens très célèbres. Tu vas chez eux, des animateurs, notamment des plus gros animateurs de télévision. Tu vas chez eux, on dirait que c'est un musée Orlinski. Je parlais de Guetta tout à l'heure. Quand j'ai connu David et Cathy, j'avais jamais été dans leur maison, etc. On était potes et tout. Une fois que j'ai vu, je comprenais pas. Il y avait que des sculptures à moi. Ils avaient pas acheté d'autres artistes. Donc il y a aussi un côté monomaniaque de certains collectionneurs. Bon, c'est toujours assez.
Vous l'êtes, vous, monomaniaque?
Non, moi je suis pas monomaniaque.
La première œuvre dont vous ayez fait l'acquisition, c'est laquelle, vous vous souvenez?
La première, j'avais pas beaucoup de moyens, moi, donc je devais acheter des reproductions ou des. Il y avait des artistes comme effectivement Tom Vesselman que j'aimais beaucoup, Andy Warhol, bien évidemment. J'ai très inspiré par la pop culture.
Il paraît que vous avez un Warhol.
Je sais pas qui vous a dit ça.
Quelle source d'inspiration est-ce que c'est encore aujourd'hui Andy Warhol pour vous, Richard Orlinski, dans son approche de l'art?
C'est un maître, Andy Warhol. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il aurait vécu de nos jours avec Internet et tout ce qu'on peut savoir. Déjà qu'il était un touche-à-tout, il était dans le cinéma, il était toujours... Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment tout fait, et je pense qu'il aurait été quelqu'un d'incroyable. Et c'est un publiciste, décrié, donc voilà, c'est aussi un peu...
Oui, c'est la diffusion, c'est la reproductibilité, c'est le quart d'heure de célébrité, c'est tout ça.
C'est tout ça
que vous prenez.
Il a fait du cinéma, il a fait un groupe de musique, on parle de musique, les Velvet Underground. Enfin, c'était quelqu'un qui était vraiment pluridisciplinaire, multifacette, incroyable.
Il était proche du Velvet, effectivement. La question, elle se pose en fait d'autant plus aujourd'hui avec vous, parce que certaines de vos sculptures se déclinent à l'infini, sont des variations de couleurs, de matériaux. Et la question que je me pose, c'est, au fond, qu'est-ce qui rend une œuvre d'art unique pour vous, Richard?
Bah, ce qui rend une œuvre d'art unique, alors c'est marrant, on va parler d'œuvre originale ou rendre unique, c'est qu'elle est... Moi déjà, mes œuvres, elles vivent. On vous parlait de matériaux tout à l'heure, même si, par exemple, c'est une édition sur 5, 6 ou 3 exemplaires ou 8 exemplaires, elles sont faites à la main, dans des ateliers, donc jamais on fait de l'assemblage, on fait du bronze, donc en réalité, c'est...
Ça sera jamais la même.
Ben non, la main de l'homme, elle est toujours là à passer, il y a toujours la main de l'homme qui intervient à un moment, peut-être pas dans les super reproductions que je fais dans l'art accessible, mais le but, c'est là de pouvoir, pour quelques dizaines d'euros, acheter une sculpture, donc c'est pouvoir justement se procurer une mini sculpture et ça
la main de l'homme ou les mains des hommes parce que vous êtes plein.
Ah oui, on est pas mal. Les mains des hommes. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, l'humain.
Ça représente quoi, en fait? C'est combien de personnes pour faire une sculpture comme celle-là?
Pour faire une sculpture, ça dépend de ce qu'on y met. En réalité, il y a un temps, effectivement, des temps de séchage, des temps de... Mais en réalité, vous voulez savoir combien il y a de personnes qui travaillent avec moi, plutôt? Vous savoir, parce que
combien de personnes?
Et on est autour de 200 personnes à bosser.
C'est énorme.
Ouais. Alors, il n'y a pas qu'attention, il y a tout le développement, parce que aujourd'hui, c'est Orlinski, c'est une marque. Je fais beaucoup de collaborations avec les marques. Donc, c'est très important aussi de rentrer. Moi, je suis très content de rentrer dans l'univers ou dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est ma grande fierté.
Merci infiniment, Richard Orlinski, d'être venu faire un tour dans cette émission. C'était très intéressant. Je rappelle que votre exposition Georges V Monumental est encore visible à Paris, près des Champs-Élysées, et jusqu'au 8 février. Bonjour, cher Ali Rebéi.
Bonjour, Augustin.
Grand bien vous fasse.
Ben oui, ce matin, mais vous n'en avez pas besoin. Des conseils pour lutter contre le stress et l'anxiété.
Ben, j'en ai énormément besoin.
Vous êtes
besoin,
un anti-stress naturel.
On va vous écouter, Richard Orlinski et moi, comptez sur moi.
Augustin, vous êtes un anti-stress naturel. Nous recevons le docteur David Gourion, qui a plein de conseils à partager avec nos auditeurs. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 01 45 24 7000.
Parfait.